Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à tous et bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Et Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Très heureux de vous y rejoindre sur le plateau, effectivement, comme chaque vendredi soir.
Coupable.
Oui, mais en même temps, vous nous avez manqué, c'est bien que vous soyez de retour. Comme ça, on mesure véritablement la qualité de vos propos à chaque fois.
Remarquable.
A été remarquable pour vous remplacer. Au sommaire ce soir, l'entrisme islamiste à l'école évoqué par Gabriel Attal. Jean-Luc Mélenchon, défenseur à sa manière de la liberté d'expression. Et après l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe, la psychose s'installe en France. On va en parler, mais d'abord, cet homme interpellé cet après-midi devant le consulat d'Oran à Paris dans le 16e arrondissement. Il avait été aperçu avec un gilet explosif en fin de matinée. En réalité, aucun explosif n'a été retrouvé. Il s'agit d'un homme né en Iran qui aurait proféré des menaces de passage à l'acte violent et qui avait déjà, par le passé, tenté de mettre le feu à la porte du consulat. Est-ce, Geoffroy Lejeune, l'actualité et les tensions entre l'Iran et Israël qui nous rattrapent ce genre d'acte, comme d'ailleurs les agressions antisémites qui risquent de se banaliser?
Je n'en sais rien. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais apparemment ça a rendu Édouard Philippe très populaire de dire je ne sais pas, donc je dis je ne sais pas.
C'est une bonne voie. Hein,
J'en sais rien, on saura, l'enquête nous le dira. Pour moi, la vraie info de cette affaire, je ne sais pas si c'est quelqu'un de très déterminé qui s'est servi, hein, qui a été déclenché par les tensions entre l'Iran et Israël, etc., ou si c'est juste un fou. Et c'est possible aussi, parce qu'en ce moment, maintenant, il y en a dans les rues, en fait, donc il faut vivre avec l'idée que les gens peuvent tout à coup se lancer dans ce genre de comportement. Pour moi, la vraie info de tout ça, et ça on en est sûr, c'est déjà connu des services de police. Et tout est là-dedans, en fait. C'est en gros le nombre de fois. Pardon ?
Tu sais qu'il est jugé en appel lundi.
Oui, non, mais voilà.
Il est récidiviste, effectivement, par rapport à des actes auprès du consulat d'Iran, déjà.
C'est ça, je pense que, vous savez, on a, dans l'actualité, on a beaucoup commenté, par exemple, la récurrence des OQTF dans les affaires, dans les faits divers qu'on commentait. On a beaucoup commenté des gens qui auraient dû être en prison et qui n'y étaient pas, etc. Maintenant, je pense que le déjà connu des services de police va devenir un marqueur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passera quelque chose avec quelqu'un qui est déjà connu des services de police et dont la place devrait être ailleurs que dans la rue, devant l'ambassade d'Iran, ça deviendra un sujet d'agacement chez les Français, à juste titre.
Est-ce que ce sont des actes isolés qui sont en train de se généraliser par mimétisme avec une actualité au Proche-Orient, notamment, ou dans les tensions entre Israël et l'Iran, et que finalement, par effet coulissant, il y a ce genre de manifestation?
C'est vrai qu'on ne sait pas, pour répéter la martingale de Geoffroy et d'Edouard Philippe. Mais il y a quelque chose de particulier chez cet homme, c'est qu'il a été condamné par la justice en première instance, prison avec sursis, puisqu'il avait déjà tenté de mettre le feu à la porte du consulat iranien, qu'il est franco-iranien. Mm-hmm. La première fois, il avait indiqué que c'était en 2023, je ne sais plus, première partie de l'année, je crois, qu'il avait indiqué que c'était une protestation contre le régime des Mollahs. Et là, ce qui est très particulier, c'est que c'est pratiquement trois jours avant son jugement en appel. Et donc l'acte qu'il a commis aujourd'hui, même s'il avait visiblement des grenades factices, mais enfin oui. C'est un peu particulier de venir avec des grenades fustelles factices, c'est quand même une démarche un peu étrange, ne risque pas forcément d'améliorer sa plaidoirie pour le jugement en appel, à mon humble avis. Donc il va être jugé lundi pour l'acte qu'il a commis il y a un an et qu'il a d'une certaine manière réitéré cette fois-ci. Est-ce que la tension, oui. Là où vous avez raison, c'est que la tension existante peut réveiller chez des personnes qui ont été, on va mettre des guillemets, fous, ou tout au moins traumatisés.
Ou les agressions antisémites par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, la guerre entre le Hamas et Israël, on peut y trouver un lien.
D'ailleurs, Gérald Darmanin...
C'est autre chose, d'accord, mais en tout cas, il y a l'actualité internationale qui viendrait s'inviter sur le territoire français, avec des actes isolés qui se multiplient.
Oui, tout à fait. À la fois, la présence de l'actualité vient percuter tout un chacun. Il y a même des candidats, parfois, qui tentent d'importer un peu le conflit sur notre territoire. Et donc, effectivement, sur des... des esprits soit traumatisés, soit fragiles, ça peut avoir des effets psychologiques non négligeables.
Vous voulez rajouter un petit mot
avant voilà, qu'on passe à la petite différence avec l'antisémitisme après le 7 octobre, c'est que le 7 octobre, ça a réveillé un antisémitisme chez des gens pas fous du tout, qui se sont servis de ça, et il y a une vraie vague en fait de volonté de faire en France ce qu'on avait fait en Israël aux Israéliens, en faire en France aux Juifs ce qu'on avait fait en Israël aux Israéliens. Je pense que ça a été manifeste.
Et les Juifs responsables de ce qui se passait de toute façon.
Bien sûr, bien sûr. Donc je pense que c'était un peu différent. C'était vraiment, c'était fait sciemment. C'était même parfois téléguidé, dans le cas notamment des étoiles qui avaient été peintes dans une rue à Paris. C'était, je crois, des Géorgiens,
des Moldaves,
manipulés peut-être par la Russie. Enfin bref, il y a eu une vraie volonté de gens intelligents qui ont pensé la chose. Là, en l'occurrence, je ne connais pas le fond du dossier.
Puisque, peut-être n'est-il pas fou, et s'il est encore en liberté, et s'il est récidiviste, il y a peut-être une action politique.
Disons qu'il
n'y
a pas un phénomène global d'agression contre les Iraniens en France depuis ce qui s'est passé samedi dernier. C'est ça que je veux dire. Voilà.
Oui. Mais en tout cas, il y a un clivage, en tout cas, les tensions avec Israël notamment cristallisent.
Ça réveille tout le discours sur le régime iranien, et visiblement cet homme avait un compte à régler avec le régime iranien.
Effectivement.
Et donc on ignore.
Et cela crée de l'insécurité encore, sous différentes formes. L'insécurité, on en parle, puisqu'elle s'installe progressivement partout. On le dit régulièrement d'ailleurs dans cette émission et sur cette antenne. Les exemples récents sont trop nombreux pour tous les énumérer. Alors on va se focaliser sur cette marche blanche à la mémoire de Philippe qui s'est déroulée ce matin à Grande-Synthe dans le Nord. Il a été agressé par une bande d'au moins 3 individus. 2 suspects âgés de 14 et 15 ans ont été mis en examen pour assassinat. Ils ont expliqué avoir créé le profil d'une jeune fille sur un site de rencontre et donné rendez-vous à cet homme, à Philippe, pour le punir. Je cite ce qu'ont dit les deux suspects. On écoute la procureure de la République qui s'est exprimée aujourd'hui, notamment sur les actes qui ont été commis sur Philippe.
Une autopsie a été réalisée. Elle révèle que la mort de Philippe Kopmann a été causée par plusieurs coups portés à sa tête sans que l'on puisse en quantifier leur nombre. Les lésions constatées à l'autopsie ne permettent pas de confirmer l'usage éventuel d'armes. Une fracture est relevée au niveau du nez. Des examens médicaux complémentaires permettront bien sûr d'en savoir davantage.
Mais manifestement, Geoffroy Lejeune, il y a eu un acharnement, la volonté en tout cas de faire mal, de tuer en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit sous la forme d'une banalisation, d'une vulgarisation de la violence, puisque ce n'est pas la première fois que ce genre d'acte se produit.
Ah, c'est pas la première fois, on peut même dire que c'est quotidien, la mort n'est pas là tous les jours, mais c'est quand même... Ce type de comportement, c'est vraiment devenu notre quotidien. Si on s'intéresse vraiment, on pourrait, vous avez raison de le dire, on pourrait faire 100% du temps d'antenne et 100% des journaux, etc. sur ce sujet-là. On remplirait des journaux avec ça. Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, c'est l'ensauvagement généralisé maintenant, et peut-être même, d'ailleurs, on parlait de mimétisme tout à l'heure dans le cas de ce qui se passe au Proche-Orient. En réalité, il y a peut-être aussi un mimétisme. Les faits divers, on traîne peut-être les faits divers, puisque en fait, les digues cèdent les unes après les autres, la violence est sans cesse dépassée, etc. Pour moi, c'est la première chose. C'est une société, c'est même plus une société malade, en fait. C'est une société, honnêtement, en fin de vie, au sens de faire société. C'est-à-dire que on ne fait plus société, il faut le dire aussi simplement que ça. Cette insécurité-là touche tout le territoire. C'est-à-dire que c'est évidemment tout le monde n'est pas victime de ça, mais par contre c'est présent partout et ça peut arriver partout. Ça c'est une donnée nouvelle. Avant il y avait des endroits où c'était moins le cas, etc. Non, c'est pas vrai. On disait le 16e arrondissement. Non, maintenant il y a des viols dans le 16e arrondissement, ça arrive. La petite Claire Géronimi qui a été violée par un migrant sous OQTF, c'était dans le 16e. Et dans les villes de province, les villes moyennes, etc. etc. Ça c'est partout et c'est généralisé. La classe d'âge ensuite, ça c'est très inquiétant parce que c'est juste la relève en fait de ce pays. En fait, ce sont des jeunes de 14-15 ans à chaque fois. Ça, c'est super angoissant. Et après, il y a tout un arrière-fond dans cette affaire qui, moi, je trouve, rajoute du glauque au scandaleux. C'est cette histoire de site de rencontre qui, en fait, n'est pas réellement un site de rencontre. C'est un site où on fait toutes sortes de rencontres qui, notamment, brassent de la prostitution, peut-être même de la prostitution de mineurs. Enfin, c'est la version hardcore en fait de ce qui peut se trouver sur internet en matière de d'échange. C'est pas une application pour rencontrer son amoureux, quoi, que les choses soient dites.
Oui.
Et donc ça aussi en fait, le guet-apens tendu sur ce type d'application, c'est l'enfer.
Pour punir, pour donner la justice, en tout cas, c'est manifestement ce qu'on les suspects ont cherché à punir Philippe, en effet. C'est ce qu'il déclare.
La procureure a été plus prudente, je ne sais pas si vous avez bien noté.
Oui, absolument.
Elle a dit c'est ce qu'il déclare, donc c'est évidemment une piste sérieuse, mais en même temps, ils ont volé. Il y a un aspect crapuleux aussi dans cet assassinat. C'est-à-dire qu'ils ont pris la sacoche et ils ont pris le portable. Donc ce n'était pas, mets plein de guillemets, qu'une punition si c'est.
Mais en tendant un piège sur un site internet avec faux profil, il y a peut-être une démarche plus profonde encore qu'un simple vol de portefeuille ou de téléphone. Quoi.
Mais soyons prudents sur cette affaire-là, parce que je crois que j'ai entendu vraiment précisément la conférence de presse de la procureure et on sent bien que l'enquête est en cours et qu'ils ont plusieurs pistes, dont celle que vous indiquez, qui est peut-être la piste privilégiée même, mais il y a d'autres pistes possibles.
Mais Philippe
Guibert, ça ne retire rien, au fait, c'est un assassinat.
Et au fait, surtout qu'il n'y a plus la psychose qui s'installe, la psychose, elle s'est installée depuis longtemps, aujourd'hui c'est la peur, c'est la réalité, c'est la peur de la population, tout simplement.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, on se trompe toujours sur le fameux sentiment d'insécurité. Quand il y a de l'insécurité, ça entraîne un sentiment d'insécurité qui est parfaitement légitime, qui s'appelle la peur, la crainte.
Mmh, c'est ça.
Ce qui est critiquable dans la notion de sentiment d'insécurité, c'est quand on la substitue à l'insécurité réelle et qu'on dit que c'est une sorte de fantasme. Mmh. Mais il est parfaitement normal que des gens normalement constitués, après avoir vu un gamin de 22 ans se faire tabasser à mort, comme ça a été le cas de ce pauvre Philippe, c'est normal que les gens aient la trouille. Enfin, c'est même tout à fait rationnel.
Bien sûr.
Oui, cette violence de plus en plus violente et de plus en plus jeune, ça pose de gros problèmes, de grosses questions sur notre société. Est-ce qu'on ne fait plus société, comme l'a dit Geoffroy ? Je dirais qu'il y a une partie majeure de la France qui fait toujours société, mais qu'il y a des bouts de la France qui ne font plus société avec nous et qui vivent dans une contre-société, une anti-société, un système où les règles de la vie en société, les règles de, pas simplement les fameuses règles républicaines et les lois républicaines, mais tout simplement la vie en commun, pour pas dire le vivre ensemble, la vie en commun, eh bien, il y a une partie minoritaire, mais une partie de la population, souvent dans les quartiers, il faut quand même bien, parce que tu disais, bien sûr, il y a de l'insécurité qui a monté partout, tu as raison, mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'elle est, que les fameux faits divers dont on parle depuis 15 jours, ils se déroulent souvent dans des quartiers populaires.
Oui.
Et donc, il y a une partie de la société qui ne fait plus société. Oui, ça c'est vrai.
Et souvent avec des mineurs. Avant de parler justement de l'ultra-violence des mineurs et des décisions ou des annonces de Gabriel Attal, peut-être encore un mot, vous y ajoutez.
Juste sur la question de faire société. Évidemment, il y a la question des populations issues de l'immigration, ça je la mets de côté, au sens où évidemment c'est le cœur du problème selon moi. Mais quand je dis on ne fait plus société, c'est pas juste uniquement parce qu'il y a une contre-société qui est cette France-là qui ne veut pas vivre avec l'autre, ou en tout cas qui est dans l'adversité, c'est que même au sein de ceux qui font société, comme tu dis, je pense même que là, le germe de la division est partout. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on est déjà divisé en silos, on est déjà divisé en communautés, en sous-communautés un peu invisibles, mais communautés géographiques.
Oui, c'est la thèse de Jérôme Fourquet sur le...
C'est l'archipel de Jérôme Fourquet, c'est exactement ça. Et honnêtement, je pense que rien ne lui donne tort. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les gens qui sont chargés de s'adresser à la France, les publicitaires, les gens qui font du marketing, les politiques, segmentent tous. C'est ça qui est intéressant.
Plus raison.
Il n'y a pas de personne ne s'adresse à la France en commun. Plus personne.
Il y a une perte de culture commune.
Ouais.
Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il n'empêche que quand même, le cœur de la société française a envie de continuer à faire société.
Bien sûr, bien sûr.
Et même si tu as raison, il y a des cultures divergentes qui se sont développées et pas simplement une partie de la culture musulmane qui peut faire sécession. Il y a l'américanisation de la société, par exemple, et Fourquet insiste beaucoup là-dessus, et est très impressionnante. Elle est plus développée en France qu'ailleurs.
Et dans le cadre des mineurs également aussi, dans le cadre de la violence juvénile, d'ailleurs le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé un certain nombre de mesures. Il a placé son centième jour à Matignon sous le signe de l'autorité, du respect, du civisme. Deux semaines après, vous en souvenez, le meurtre de Chemchedine, 15 ans passé à tabac à la sortie de son collège à Viry-Châtillon, le Premier ministre a notamment reconnu un certain entrisme islamiste dans les établissements scolaires. Écoutez.
Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Détermination du Premier ministre, mais est-ce, Geoffroy Lejeune, une découverte de sa part, cet entrisme islamiste, ou un constat tardif ?
Non mais avec lui c'est toujours pareil, il a 34 ans, on peut pas lui faire le reproche d'avoir tout raté depuis 40 ans puisqu'il n'était pas né il y a 40 ans. En revanche,
c'est pas son bilan.
D'ailleurs c'est sa force, enfin c'est sa chance plus exactement, c'est qu'il est pas comptable. Ouais. Et d'ailleurs c'est intéressant, dans les enquêtes d'opinion, il est pas crédité. Il n'est pas comptable du bilan des autres. Mais il appartient à une famille politique qui ne sort pas de nulle part, même si En Marche s'est créé en 2017. Ce sont des gens qui ont quand même beaucoup gravité dans la politique avant, qui étaient à droite d'ailleurs ou à gauche, peu importe. Et le résultat, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de décisions. C'est pas tombé du ciel. C'est le résultat de décisions. En fait, on pourrait même refaire le film et savoir tout ce qui nous a amené là. Donc la question, c'est est-ce qu'il est capable de rompre avec ce qui nous a amené là ? Moi, j'ai le sentiment... c'est agréable d'écouter Gabriel Attal parce qu'en fait c'est compliqué d'être en désaccord avec lui. Il a cette intelligence là d'enfoncer des portes ouvertes à tel point que finalement vous êtes devant, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous dites ouais mais là-dessus il a raison, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il ne dit pas pour l'instant, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que moi, ma théorie sur Gabriel Attal, pour qui j'ai plutôt de l'affection, je veux dire, j'ai pas de problème avec lui, il est très sympathique, c'est agréable de travailler avec lui quand on est journaliste parce que c'est clair, c'est cash, c'est professionnel. Il a passé 3 mois ou 4 mois au ministère de l'Éducation nationale et tout le monde a encensé son bilan parce qu'il a fait l'abaya plus 2-3 autres décisions,
le harcèlement,
Moi, je pense que c'est un communicant génial qui a compris que sur l'abaya il était attendu, donc il a fait ce qu'il fallait faire, et que sur le harcèlement il fallait qu'il soit dans la compassion, dans l'émotion, dans la compréhension. Il a été très bon. Mais l'abaya, en fait, c'était un décret. C'est-à-dire qu'il a décrété la fin de l'abaya. Il a écrit un papier sur lequel il a dit « J'endosse la responsabilité d'interdire l'abaya et les chefs d'établissement ne peuvent pas être responsables, c'est moi qui décide ». C'était, entre guillemets, entre lui et lui. Il a écrit ce décret et ensuite, c'était la norme. Et après, il fallait la faire respecter et il a envoyé... Il a fait en sorte que ce soit le cas. C'est pas encore complètement le cas, mais il a fait en sorte que ce soit le cas. Premier ministre de la France... Et le sujet dont il est en train de parler en ce moment, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité, c'est autre chose. Il ne va pas décréter le rétablissement de l'autorité sur un papier dans son bureau. De longue
haleine. Oui, mais il peut intervenir sur l'entrisme islamiste qu'il cite nommément, ouais, tout de même. Ce qui est une avancée aussi, Philippe Guibert. Et d'ailleurs, s'il n'est pas comptable de ce bilan de l'entrisme islamiste dans les écoles notamment, qui l'a laissé entrer ? Qui en est comptable ?
Je suis un peu sévère avec Attal parce que sur l'islamisme, il a toujours été d'une grande clarté avant même
mais
d'être ministre.
La marche est plus haute maintenant.
Ah, évidemment que la marche est plus haute. Mais comme tu le disais, on supprime pas l'islamisme par décret, hélas. Hein, on peut supprimer, interdire l'abaya à l'école par décret, mais on supprimera pas l'islamisme par décret. On est face à une tâche qui est compliquée. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité de la France, de l'État, de ne pas avoir pris la mesure de ce qui pouvait nous arriver avec un islam qui lui-même est en crise et profondément travaillé par l'islamisme. Et puis il y a une responsabilité aussi d'une partie des musulmans qui, à mon avis, alors c'est pas facile, c'est difficile aussi pour eux, ne luttent peut-être pas assez avec assez de force, ne portent pas assez la parole pour combattre des pratiques que la plupart ou que beaucoup d'entre eux ou une majorité d'entre eux ne réprouvent. Le fait est que quand on regarde les études d'opinion qui ont été faites, je crois qu'on en avait parlé ici, sur les Français musulmans, vous voyez qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire que les jeunes générations sont celles qui ont les pratiques et les conceptions les plus rigoristes et celles qui se rapprochent le plus de l'islamisme. Ça traduit la crise de l'islam dont je parlais, qui est là depuis 30 ans et qui se répercute plus encore sur les jeunes générations que sur les générations plus âgées qui ont une pratique de l'islam qui est plus intégrée à la société française. Mais c'est la France de demain, hein, cette jeune génération. Et donc c'est un travail énorme. On n'a pas réussi à transmettre une certaine tradition française autour de la République laïque. On n'a pas été convaincu que c'était indispensable, y compris ma génération. Je suis un peu plus âgé que Gabriel Attal. Et à gauche, je pense qu'on n'en a pas eu assez conscience. On en a pris conscience beaucoup trop tardivement au moment des attentats en 2015, où là on s'est dit « oh là là ». Et je pense qu'il aurait fallu en prendre conscience plus tôt. Je pense qu'à droite, il n'y a pas eu non plus une grande prise de conscience et qu'on n'a pas vu ce qui était en jeu avec ça. Donc aujourd'hui, il y a un islamisme d'atmosphère, si j'ose dire, qui se joue à l'école, on le sait très bien depuis la loi de 2004, et plus généralement, des pratiques rigoristes qui rentrent en contradiction, soit avec les lois, soit avec les mœurs de la société française.
Cela veut dire
c'est
que...
un travail de longue haleine.
Il
va falloir mener des politiques sur la durée. Et en y associant les Français musulmans, nos compatriotes. Oui. Parce qu'on ne fera rien sans eux, à mon humble avis.
La gauche et la droite historique, classique, sont donc passées à côté. Oui. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui de ce que l'on appelle, enfin ce que Gabriel Attal cite, l'entrisme islamiste.
Absolument. Je pense que la gauche et la droite sont passées à côté, pas pour les mêmes raisons.
Oui, oui, tu as raison.
C'est-à-dire que je ne souscris pas totalement à ce que vient de dire Philippe sur la gauche. Je sais qu'une partie de la gauche, dont tu fais partie d'ailleurs, s'est réveillée en 2015 en se disant zut, est-ce que.
Un peu avant, mais oui. Vraiment en 2015.
Ouais. Bon, ce sont ces années-là, c'est le moment d'ailleurs où Manuel Valls commence à en parler.
Enfin, oui,
c'est,
oui.
C'est un moment d'ailleurs, je me souviens très bien qu'à l'époque, on hurlait, enfin on hurlait, moi non, hein, mais parce que la presse de gauche hurlait, parce qu'il y avait un ministre de l'intérieur de gauche qui disait des banalités pourtant, mais voilà. Valls a été quasiment traité de... Enfin, il a été vraiment traîné dans la boue pour cette prise de conscience-là. En effet, c'est un peu avant 2015. Ça, c'est la gauche de bonne foi, si j'ose dire. Il y a une gauche, je vais parler en deux secondes de la droite.
Oui,
la droite, pour moi, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie d'en parler, c'est pas qu'ils avaient... qu'ils voulaient absolument être dans le déni, etc., c'est qu'ils ont eu peur. Ils ont eu une forme de lâcheté. Notamment, c'est le cas du rapport Aubin, c'est la droite au pouvoir au moment du rapport Aubin. Ils n'ont pas envie de réveiller le sujet, et je pense que ce n'est pas par crainte des réactions des musulmans, parce que la vérité, c'est qu'ils sont assez intelligents pour savoir que les musulmans sont majoritairement de leur côté, entre guillemets, sur le sujet. C'est par crainte des médias. Et ça, pour le coup, je pense que les médias ont une responsabilité terrible dans ce qui s'est passé. Et pour terminer sur la gauche, l'autre gauche, pas la tienne, mais l'autre, il y a une gauche qui a été hégémonique sur le plan intellectuel pendant des années, qui, elle, a voulu ça. Et ça, c'est autre chose. Moi, je pense que... Pour qu'un musulman un jeune musulman, un français musulman de 20 ans aujourd'hui déteste la France et mette l'islam au-dessus de la France, c'est pas juste, on a collectivement échoué, etc. On lui a appris parce que nous sommes nous-mêmes appris à détester la France. Et quand on vous offre, quand vous êtes issu de l'immigration, même si c'est la troisième ou quatrième génération, que vous êtes ici et que vous voyez un pays qui se déteste parce qu'il a appris à se détester, parce qu'une partie de ses élites ont décidé qu'il fallait qu'il soit détestable à cause de la collaboration, à cause de l'histoire, à cause de milliards de choses,
à cause du
racisme systémique, à cause des contrôles aux faciès, c'est le discours d'une partie de la gauche, et cette gauche-là, elle a été hégémonique.
Vous allez pouvoir répondre, Philippe Guibert. Juste après la pause, Philippe Guibert va pouvoir répondre à Geoffroy Lejeune. On pourra développer et dérouler encore le retour de l'autorité voulue par Gabriel Attal. Mais ce sera dans Ça se dispute, juste après la publicité et les infos. À tout de suite. Toujours en direct sur le plateau de Ça se dispute avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Deuxième partie dans quelques instants. Mais d'abord, point sur l'information. Simon Guilin, bonsoir.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Un homme menaçant a été interpellé et placé en garde à vue après une alerte donnée par le consulat d'Iran à Paris. Il aurait été vu à l'intérieur porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif. Et grâce à l'intervention de la police, ce franco-iranien né en 1963 est finalement sorti par lui-même. Le suspect, déjà connu des services de police, avait sur lui un gilet avec des grenades factices. Un périmètre de sécurité a été levé en fin d'après-midi. Une adolescente de 14 ans est décédée en marge de l'attaque au couteau survenue hier dans le Bas-Rhin. Elle avait été victime d'un malaise cardiaque lors du confinement de son collège. Deux fillettes âgées de 7 et 11 ans avaient été agressées par un homme armé de ce couteau. Le suspect interpellé présente des antécédents psychiatriques. Et puis à partir du 1er juillet prochain, les supermarchés auront l'obligation de signaler tous les produits dont la qualité a baissé mais le prix, lui, n'a pas diminué. Une annonce aujourd'hui donc de la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. Des petites affiches seront collées sur tous les produits concernés.
Merci Simon Guilin. L'information revient à 22h en direct sur CNews. Deuxième partie de Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Et comme promis, Philippe Guibert, vous deviez répondre, voilà qui va être fait, à Geoffroy sur notamment la responsabilité, le rôle de la gauche pendant ces dernières années au sujet de l'entrisme islamiste dans notre société et notamment à l'école.
Oui, enfin, on va pas refaire toute l'histoire de la gauche depuis 1980. Hein. Il faudra plusieurs émissions. Mais disons que c'est pas la haine de la France. Ça a été le sentiment trop partagé, mais y compris par la droite pour d'autres raisons, que la France était devenue un truc un peu folklorique et que l'avenir c'était l'Europe. Moi, j'ai vraiment vécu, très engagé en politique dans toutes les années 90-2000, que la France était appelée à être dépassée. Donc, ce n'était pas simplement qu'une question de haine de la France.
Je suis désolé, moi, je parlais d'autre chose. Je parlais de l'édito de Globe qui dit nous avons en horreur tout ce qui est béret, baguette, bignou, etc. Ça, c'est la détestation.
Oui, mais ça n'a jamais
la
été.
La France franchouillarde. Ah, bah, excuse-moi.
Ça a eu une visibilité médiatique. C'est où la Françoisie dont parlait Philippe Soler.
Bah, mais ça n'a jamais française été. Française de BHL.
Ça n'a jamais été majoritaire. Ce qui a été un moment.
Excuse-moi, sur le plan intellectuel.
Ouais, enfin, franchement, je l'ai vécu d'assez près, tout ça. Et c'est pas ça qui a
touché. C'est un rescapé, alors, c'est ça.
C'est, non, pas le seul. On en est quelques-uns.
Oui, c'est vrai.
Plus très nombreux, c'est vrai, je te l'accorde. En revanche, il y a eu des erreurs qu'on a commises, voire des fautes. Et qui ont, pour partie, été partagées par la droite. L'erreur sur le voile Creil, 1989. Là, on prend pas la mesure du problème. Et la droite est très discrète aussi sur le sujet.
Et la gauche met au banc les intellectuels de gauche. Finkielkraut, à l'époque, est un intellectuel de gauche.
C'est Régis Debray, c'est Elisabeth Badinter, c'est Finkielkraut qui écrivent le Munich de l'école républicaine dans le Nouvel Obs à ce moment-là.
Et ils se font... C'est le début du bannissement pour eux.
Oui, enfin, ça a duré
Ça
a duré quelques temps après pour eux. C'est un peu plus tardif. Et la deuxième erreur, et là dont je me souviens très bien, c'est bien avant les attentats contre Charlie... C'est le procès oui, qui a été tenté contre Charlie. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup de courage à gauche, dans la gauche républicaine. Il n'y a pas assez de courage. Il n'y en a pas beaucoup non plus dans la droite républicaine.
Retour sur les mesures de Gabriel Attal autour de la violence des mineurs. Donc c'est normal, on est dans l'émission « Ça se dispute » et nos deux éditorialistes, nos deux invités permanents se répondent évidemment. Et vous allez pouvoir vous exprimer également sur ces mesures du Premier ministre autour de la violence des mineurs. Avant, on écoute juste Alain Bauer, expert des questions de sécurité, qui se félicite de ce qu'il appelle, lui, la prise de conscience sur cet entrisme islamiste, mais aussi sur la mutation de la jeunesse française.
Ça fait à peu près 20 ans que tout le monde fait à peu près le même constat et que la plupart de ceux qui vous parlent politiquement, de gauche et de droite, vous disent que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas grave et qu'en plus, ce n'est pas de leur faute. Pour une fois, quelqu'un qui dit que c'est vrai, que c'est grave et qui va s'en occuper, oui, attendons la livraison. Mais je dois dire que c'est plutôt un progrès par rapport à la reconnaissance du réel. Le réel gagne toujours, c'est juste plus ou moins lent. Mais pour une fois, il y a des mots qui couvrent des choses qui ressemblent à des faits.
Il y a de l'espoir, il y a une forme d'optimisme dans les propos d'Alain Bauer sur les actions à venir de Gabriel Attal, notamment sur l'incrimination parentale, l'internat, le retour de l'internat ou l'excuse de minorité.
Mais en fait, moi, il n'y a rien qui me déplaît, hein, attention. Mais j'ai le sentiment que Gabriel Attal est le... Tous les hommes politiques sont le symptôme de quelque chose. Lui, je pense qu'il est le symptôme de la classe politique qui ne peut plus faire l'économie, comme disait Bauer, de mettre des mots sur le réel. C'est-à-dire qu'en fait, il aimerait bien dire l'inverse. Il aimerait bien faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire bon, bah, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas autant que ce que vous dites.
Non, mais lui, il a compris que c'était plus possible.
Bien sûr, c'est d'ailleurs sa grande vertu, c'est qu'il a compris que c'était plus possible. Et je pense que c'est ça qui le propulse à ce niveau de popularité, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il dit voilà, les choses sont comme ça, ça me fait pas plaisir, mais c'est la réalité, et donc on va essayer de faire quelque chose. Et moi, le discours me va très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je travaille souvent sur ces questions, je sais que si vous voulez obtenir des résultats, je vais essayer de prendre un exemple intelligent dans tout ce qu'il a dit. Par exemple, la question de la justice des mineurs. Il faudrait, pour essayer de casser l'ensauvagement de ces générations, il faudrait beaucoup de choses. À commencer par revenir sur une loi qui a été votée par le ministre de la Justice de Gabriel Attal en 2021, c'est-à-dire Éric Dupond-Moretti et Emmanuel Macron ont été d'accord pour dire en 2021 qu'il fallait la césure du procès. Tous les gens qui travaillent sur la délinquance des mineurs vous expliquent que la seule chose qui compte, notamment Maurice Berger, j'en cite un, la seule chose qui compte, quelle que soit la violence de la sanction, c'est qu'elle tombe
rapide.
Voilà. Et rapidement, ça paraît logique, c'est du bon sens. C'est-à-dire, vous avez volé quelque chose, vous êtes sanctionné le lendemain et vous effectuez votre peine, même si votre peine dure 10 jours, vous l'effectuez tout de suite et après ça vous retient. Bon, le problème, et on a constaté que le problème de la justice des mineurs, c'était qu'en fait, ils étaient jugés beaucoup trop tard. Donc, on a fait la césure du procès en deux temps et donc ils sont jugés beaucoup plus tard.
C'est-à-dire,
huit mois après. Donc, cette logique-là n'est pas respectée. Bon, ce ministre, il est encore ministre de Gabriel Attal. Ça veut dire qu'il faudrait, premièrement, qu'il aille contre ce qu'on fait, non pas ses prédécesseurs, ses collègues. Donc ça, c'est la première chose. Il a 34 ans, il n'est pas non plus... il a une légitimité parce que les gens l'aiment bien, mais il n'est pas non plus tout puissant. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut des ruptures idéologiques. Il est capable d'audace sémantique. mais des ruptures idéologiques avec tout ce qui a fait ce à quoi on est arrivé. Je veux dire, il vient quand même du Parti Socialiste, hein, sans vouloir systématiquement...
Ah, là, t'es un peu polémique, parce que ça me paraît pas être ça le problème de Gabriel Attal. D'ailleurs, je suis très satisfait que quelqu'un qui vienne du Parti Socialiste dise la réalité.
Je suis d'accord avec toi. D'une phrase pour terminer, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il est dans le Bloc central. Et le Bloc central se pense comme ayant vocation à préserver le cercle de la raison, tu l'appelles comme tu veux, à préserver...
Justement, il est une brèche là-dedans.
Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune capacité de radicalité au sens juste du terme, c'est-à-dire il y a un problème grave, il faut une solution qui est à la hauteur de ce problème-là. Je trouve que sur tous les sujets, en réalité, ils ne sont radicaux que dans des domaines où il n'y a pas d'urgence.
Il faut donc des actes.
Là-dessus. Moi, je pense que son problème, ce n'est pas ses conceptions, le fait qu'il soit dans le Bloc central, c'est le problème du ministère de la Justice, des magistrats. J'ai été très frappé dans les réactions aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal hier, dans les syndicats de magistrats, parce qu'on parle toujours du syndicat de la magistrature, qui fait 30%, sauf erreur de ma part, des voix au sein des magistrats. Mais le syndicat majoritaire, qui est apolitique, qui est plutôt centre-droit, a été très critique sur les annonces de Gabriel Attal. C'est-à-dire que le cœur des magistrats, et pas les magistrats les plus à gauche, sont eux-mêmes très réticents par rapport au changement qu'a commencé à évoquer Gabriel Attal. Et donc je pense que ce changement de culture, où effectivement il faut faire évoluer un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer l'excuse de minorité, mais il faut peut-être inverser la charge de la preuve et demander aux juges de justifier quand ils utilisent l'excuse de minorité. Il faut évidemment de la comparution immédiate pour les crimes les plus graves, y compris pour des mineurs. Il faut, ce que tu indiquais, rapprocher nettement et rendre beaucoup plus rapide la justice des mineurs. On est tous d'accord là-dessus. Mais là, il se heurte à des conceptions qui ont cours dans l'ensemble des magistrats, et encore une fois, pas simplement ceux du syndicat de la magistrature, qui considèrent que c'est un tournant répressif. Il faut lire l'article du Monde cet après-midi sur les annonces de Gabriel Attal, on se dit, mais un tournant, un virage répressif, mais alors de vouloir juger des gens beaucoup plus vite et sévèrement, des gens qui ont tué, massacré des personnes, comme on l'a vu ces dernières semaines, c'est une affreuse répression. Enfin, ça paraît un peu lunaire, tout ça. Donc je pense que la révolution, elle est politique et culturelle au sein de la magistrature. Et Éric Dupond-Moretti, de ce point de vue-là, je te rejoins, est peut-être un obstacle, parce qu'effectivement, la réforme de 2021 a été une occasion manquée. Et que c'est pas, ils ont amélioré les choses, mais ils n'ont pas été du tout dans le sens de cette révolution culturelle. Et donc, encore une fois, Attal va se trouver confronté à la magistrature et à Éric Dupond-Moretti.
On parle
d'ailleurs n'a pas été d'une clarté folle sur l'excuse de minorité.
Oui, c'est assez confus.
Alors que ça peut paraître assez simple de trouver des solutions.
Alors que ce serait radical et ce serait un acte fort, en effet, si une décision était prise
de
manière drastique.
Il n'y a pas besoin de la supprimer, parce que ça serait inconstitutionnel. Il n'y a pas besoin de la supprimer. Il suffit juste d'inverser la charge de l'approche et de dire, après 16 ans, ou pour des crimes, les crimes forcément graves, ou les actes de délinquance très graves, on inverse et on dit la règle n'est plus l'excuse de mérité, il faut la justifier dans ce qu'on l'utilise.
Ce sur quoi insiste Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation, ce sont donc des annonces sur l'autorité à l'école également. On parle de jeunesse, il y a le sentiment de l'éducation et de faire évoluer, de faire grandir cette jeunesse. Est-ce que ces annonces, Geoffroy Lejeune, ne sont pas le signe d'un retour à une éducation humiliante qui a été critiquée pendant très très longtemps par une partie de la gauche, notamment quand on était à l'époque de ce qui risque de revenir, à savoir les internats, une discipline, des valeurs patriotiques notamment?
Vous appelez ça de l'humiliation?
Ouais, même moi,
c'est ce qui a été utilisé pendant de nombreuses années.
Raison, Lionel.
On parlait d'éducation humiliante.
Bah oui, bah c'est
pour les élèves qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas perturber.
Et en fait, c'est le drame absolu. On est en train de payer ça. Ça fait partie d'ailleurs de ce que je disais tout à l'heure sur le magistère de gauche sur certains domaines. On a décidé de déconstruire, en fait, de liquider tout ce qui existait, en gros, avant 68, de manière un peu normale, etc.
Mais il y a des choses... Pardon, je te laisse terminer, mais il y a des choses, heureusement, qu'on n'a pas reconstruites après mai 68.
Ouais, alors dis-moi quoi.
On va parler, par exemple, cette annonce où il faut se lever quand le professeur rentre. Enfin, pardon, moi, j'ai fait mes études au collège à la fin des années 70, au lycée, au début des années 80. On se levait pas quand le prof rentrait.
C'est dommage.
Pourquoi ça peut redevenir
C'est un peu comme la question de la blouse ou de l'uniforme.
Ouais, bien sûr.
Moi non plus, j'avais pas de blouse et pas d'uniforme. Mais je m'en félicitais.
Je vais te dire,
le problème est que les gamins que nous étions dans les années 70 ou 80 ne ressemblent pas beaucoup aux gamins des années 2010 et 2020. Donc le problème est le changement d'époque et le changement. Oui, mais il y a sans doute des raisons à cela, parce qu'il n'y a pas de raison que cette génération soit plus méchante ou plus défiante. C'est juste, en tant que telle, c'est pas dans les gènes. Hein,
donc, c'est juste en fait qu'elle n'a aucun cadre. Elle n'a aucun cadre. C'est aussi simple que ça pour moi. Enfin,
mais c'est pas un problème de mai 68. C'est là-dessus que je voulais.
Alors mai 68, c'est symboliquement, c'est le moment en fait où on dit abat l'autorité.
Il est interdit d'interdire. Vive la liberté.
Abat l'autorité du maître. On est en plein dans le sujet de l'école. Abat toutes les autorités. Abat toutes les règles. Non, toutes les normes. La liberté.
Franchement, c'est une caricature.
C'est exactement ce que les zélotes de mai 68 disent.
Oui, mais c'était. Enfin, je veux dire, tu prends la minorité gauchiste de mai 68.
Ah, et pardon,
mai 68, ça a été bien autre chose que ça. Et la société française avait beaucoup vieilli dans les années 60.
On notera que mai 68, c'est aussi un mouvement ouvrier dont on ne parle plus jamais.
C'est 13 millions de grévistes, c'est la plus grosse grève de l'histoire de France.
Et pour le coup.
Et les plus grosses augmentations de salaire dans les accords de Grenelle.
Et pour le coup, dans l'histoire de France, ça n'a pas du tout. Cette grève historique n'a aucun. C'est sans commune mesure l'impact de la grève et l'impact du quartier latin. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que ma théorie, c'est que ça a toujours existé. Cette autorité était naturelle, etc. À un moment donné, des gens qui étaient très peu nombreux, tu as raison, ont décidé de faire voler ce modèle-là en éclats. Ils étaient intellectuels, ils ont fait de la politique, ils ont fait de l'entrisme, etc. Ils ont voulu faire exploser ça. Et ta génération, c'est la génération qui, en fait, c'était tellement ancré en nous que, en fait, vous n'en aviez pas besoin. Donc, de fait, j'imagine très bien que tu étais un bon élève très obéissant, sans pour autant te lever et sans pour autant pouvoir porter de blouse.
Toujours, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle.
Moi, je suis une génération un peu après, qui est encore préservée. Je reconnais, j'ai une scolarité un peu dans le public, un peu dans le privé, j'ai à peu près tout connu, où objectivement, je pense que ça tenait encore la route. Sauf que quand tu enlèves le cadre, c'est comme quand tu enlèves le tuteur d'un petit arbuste, si tu l'enlèves, au début ça va, puis à un moment donné, il s'affaisse. Je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et objectivement, qu'est-ce qu'il y a d'humiliant à dire, en fait, je suis désolé, c'est très très simple. Le maître est supérieur à l'élève en toutes circonstances.
Oui, mais voilà pourquoi on se lève. Et moi, je suis d'une génération où on se levait même à cette époque-là.
C'est pour ça que
le mettre dans,
oui,
dans la
classe. À cette époque-là, il faut remonter assez loin. Encore une fois,
Lionel n'est pas spécialement.
On est à peu près de la même génération, Philippe Guibert.
Ouais. Et vous êtes levé dans votre
toujours à l'école élémentaire, absolument. Toujours.
L'école élémentaire. Moi, je me
souviens. Du CP jusqu'au CM2, on se levait. Alors c'était à Marseille, peut-être, mais
à Marseille. Mais voilà. Parce qu'à Marseille, il y avait un problème d'autorité.
Mais il n'y avait pas de problème d'autorité à l'époque. Ça, je peux vous le dire. Tout le monde respectait les instituteurs, les instituteurs.
Non, mais pour revenir sur le. D'abord, évidemment, c'est pas humiliant. Arrêtons de se. C'est évidemment pas humiliant. Le point de l'internat, pour moi, est très important, parce que pour connaître certains cas, effectivement, de gamins qui n'entre pas bien dans le cadre de l'école normale, qui ne fiche rien, qui commence à avoir des mauvais comportements, l'internat est une solution. Et attention, l'internat, il ne s'agit pas de revenir à l'internat des années 50. Il s'agit simplement d'avoir un internat où les gamins sont encadrés. Mais ne revenons pas non plus, parce que c'est là où, quand on dit que mai 68 est une catastrophe, il y a eu plein de bons côtés dans mai 68. C'est qu'en même temps, les internats dans les années 50 étaient, alors pour le coup, humiliants et hyper répressifs. Il y a eu des tas de livres, de films, de documentaires sur le sujet.
Oui, t'as eu les choristes. T'as l'impression que les générations d'après ont été sacrifiées.
Ouais, ouais, non, mais je t'assure, on peut se renseigner là-dessus. Donc, mais l'internat peut être une très bonne solution dès lors qu'il est pas un instrument d'humiliation, mais de recadrage. Et ça, c'est incontestable. Et ça ne me gêne pas du tout qu'on se lève pour...
Voilà, c'est une question de curseur.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est une question de curseur. Se lever quand le prof arrive, ça ne me choque absolument pas. Peut-être que symboliquement, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, on en aura peut-être besoin. Je ne suis pas contre. Après, je pense que dans ce que tu disais, la responsabilité et la conséquence principale, ça a été la chute du niveau scolaire, la perte de l'exigence.
Oui, c'est vrai.
Mais sur la perte d'autorité dans la société, on ne va pas faire un long développement sur le sujet, mais la déstructuration de la société française, ce n'est pas mai 68. C'est l'évolution des mœurs, qui existait partout en Europe et dans l'Occident, pas juste en France, et qui fait que la famille ne joue plus le même rôle, que toutes les institutions ne jouent pas le même rôle.
Absolument. Juste quelques mots pour la fin de cette émission. Non, mais c'est intéressant le débat, mais on n'a pas assez de temps. On réclame plus de temps pour cette dispute parce qu'effectivement nos débatteurs n'en ont pas assez. Il faut qu'on signe une pétition pour avoir plus de temps dans l'émission de vendredi. On va la faire dès à présent. Après l'annulation de sa conférence sur Gaza à Lille, Jean-Luc Mélenchon a réclamé des sanctions contre le préfet du Nord, dénonçant un abus de pouvoir. Hier, il avait aussi établi un parallèle entre le président de l'Université de Lille et le criminel nazi Adolf Eichmann. En fait, il estime qu'on l'empêche de s'exprimer librement. Pourtant, lui-même et ses partisans ou ses partisans réclament parfois le bâillonnement de certains de ses opposants. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, bien sûr. C'est pour ça, moi j'ai défendu ici, d'ailleurs sur ce plateau, le fait qu'il ne fallait pas interdire cette conférence ou ces prises de parole. Une fois qu'on a dit ça, je veux dire, par exemple, à titre personnel, la France Insoumise a déjà demandé mon interdiction de parole, ils ont demandé mon licenciement de mon poste, ils ont demandé que je démissionne, ils ont demandé que je puisse plus venir à la télévision. Enfin, je veux dire, quand les censeurs qui ont la censure, ça finit par, et je trouve que d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils insultent quand même CNews dans des proportions hallucinantes, invraisemblables. Et pourtant, je pense que c'est ici qu'ils ont été le plus défendus sur la question du principe.
Où ils auraient toute liberté pour s'exprimer. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris même à CNews dans le cadre donc de la liberté d'expression. Écoutez ce qu'il dit sur notre chaîne.
Et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement.
Est-on Philippe Guibert dans ce cadre-là, dans le débat d'idées sur la liberté d'expression?
Comme Geoffroy, on défend un principe, c'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est fait aussi pour les gens qu'on n'aime pas, qu'on méprise, qu'on juge parfois dangereux, et que la seule limite de la liberté d'expression, c'est l'ordre public, et quand il y a une menace pour l'ordre public. Et donc, c'est pour ça que je suis amené, comme d'autres, à dire que M. Mélenchon aurait dû pouvoir s'exprimer à l'université de Lille, parce que c'est de là dont vient l'erreur de départ. C'est-à-dire que l'interdiction de la réunion publique qu'il organise par le préfet, en fait, un peu en catastrophe, en louant une salle trop petite qui fait 300 personnes, le préfet dit, attention, là, les conditions de sécurité sont pas remplies. Oui. Mais c'est une conséquence.
Mais si c'est pour tenir des propos diffamants ou des propos diffamatoires sur l'antisémitisme, sur CNews, chaîne infâme, je cite Jean-Luc Mélenchon.
Mais c'est une honte. C'est une honte. Parce que, effectivement, Geoffroy a parfaitement raison. On a été très nombreux sur cette chaîne.
Doit-on laisser la liberté d'expression pour de tels propos?
Mais on doit laisser la liberté d'expression, y compris aux gens qui disent n'importe quoi. Je vais rester poli. Mais oui. Moi, je trouve malsain que des partis politiques, parce que pour le coup, sur l'université au départ, ce ne sont pas, comme on l'a vu, peut-être que dans ton cas et dans d'autres cas où ce sont des groupuscules d'étudiants qui demandent l'interdiction. Là, ce sont des politiques. C'est Xavier Bertrand, c'est le RN, ce sont les macronistes qui ont demandé l'annulation. Et le président de l'université a peut-être eu tort, mais c'est plus facile de le dire à notre place qu'à sa place, a peut-être eu tort de céder à cette injonction d'annuler cette conférence à l'université. Il n'y avait pas de raison d'annuler cette conférence à l'université, quand bien même cette organisation Libre Palestine est extrêmement mystérieuse.
Je laisse quelques secondes à Geoffroy Lejeune pour conclure. Avec, en substance, Geoffroy, le fait que Rima Hassan, la candidate de la gauche radicale aux européennes, ait été convoquée par la police pour apologie du terrorisme.
Ça gênant aussi.
Ouais, bien sûr. En 30 secondes. Non, mais comment vous dire, en fait, les lois sont les mêmes pour tout le monde. Ils ont traîné Yohann Uzay au téléphone, au tribunal, pardon, la veille. Je pense qu'il gagnera son procès. Je lui souhaite et je lui souhaite tout le courage parce que c'est pas drôle de se retrouver au tribunal face à la France Insoumise. Mais à un moment donné, en fait, je sais pas si elle sera condamnée, mais si elle a tenu des propos et elle en a tenu qui étaient, moi, à titre personnel, qui m'ont gêné énormément et que j'ai trouvé scandaleux, mais qui par ailleurs sortent du cadre de la loi, très bien, allez-y au tribunal.
Si je peux juste m'en rappeler.
Très rapidement.
C'est une déclaration qui date de novembre-décembre 2023. Je trouve particulièrement maladroit qu'en pleine campagne électorale, 5 mois après, on vienne lui reprocher ses déclarations. Il fallait le faire tout de suite.
Peut-être y en a-t-il eu d'autres aussi et plus récemment peut-être.
Si j'ai bien compris, la matière en effet. Fait 2023.
Olivier de Kerenfleck dans Soir Info dans quelques instants. Ça se dispute, c'est déjà fini. Donc à vendredi prochain. Merci de nous avoir accompagnés sur CNews.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.